à 10 jours de la conférence de l'ONU où plusieurs pays dont la France doivent reconnaître officiellement l'État palestinien. La France qui dénonce vivement ce matin ces restrictions. Sécurité maximale et médias d'État présents partout en Chine pour couvrir le plus grand rendez-vous diplomatique de l'année, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il commence ce soir. 20 chefs d'État attendus. En France, le Parti socialiste vient de proposer ses mesures pour le budget de 2026. Objectif, taxer les grandes fortunes. Explication de notre journaliste sur place, Adrien Toffolet. Et nous terminerons ce journal à Perpignan pour observer des photographies à l'occasion de l'ouverture du festival de photojournalisme Visa pour l'image. Nous recevons son directeur et fondateur, Jean-François Leroy. Refus d'accorder aux responsables palestiniens des visas pour entrer aux États-Unis alors que l'Assemblée générale de l'ONU va se tenir du 9 au 23 septembre, une assemblée au cours de laquelle la France plaidera pour la reconnaissance d'un État palestinien et où le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, doit s'y rendre. Bonjour Louise Baudet.
Bonjour Marie-Aimé.
Cette annonce des États-Unis n'est pas une première.
Effectivement, cela remonte à novembre 1988. L'administration Reagan refuse alors l'entrée sur son territoire de Yasser Arafat et de sa délégation, accusés de soutenir le terrorisme. Résultat, l'Assemblée générale de l'ONU part se réunir à Genève au lieu de New York afin que le chef de l'OLP puisse s'exprimer à la tribune. Alors on n'en est pas encore là, mais d'ores et déjà les Européens s'insurgent. Depuis Copenhague au Danemark où se retrouvent aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères de l'UE, dont le français Jean-Noël Barrot.
Le siège des Nations Unies est un lieu de neutralité, c'est un sanctuaire au service de la paix, où sont résolus les conflits, où sont empêchées les guerres. De ce point de vue-là, une Assemblée générale des Nations Unies, fondée il y a 80 ans par la France, entre autres pays fondateurs, ne saurait souffrir d'aucune restriction d'accès et j'aurai l'occasion de m'exprimer à ce sujet avec mes collègues européens.
Dans le viseur des États-Unis, la reconnaissance de l'État de Palestine et la dynamique engagée par Emmanuel Macron cet été, une dizaine d'autres pays devraient s'y associer lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Or, les États-Unis ne veulent pas de cette reconnaissance, pas d'État palestinien, donc pas de représentant légitime, donc pas de visa. Logique au diapason de celle du gouvernement israélien, engagé dans la destruction de Gaza et dans l'accélération de la colonisation de la Cisjordanie. Et nouvelle preuve du soutien indéfectible de l'Amérique trumpiste à l'État hébreu.
Merci Louise Baudet de la rédaction internationale de Radio France. Aux États-Unis, c'est un revers pour Donald Trump. Sur la question des droits de douane, une cour d'appel fédérale américaine a statué hier qu'une grande partie de ces taxes était illégale, estimant que ce n'était pas au chef de l'État de choisir à lui seul les droits de douane de manière indiscriminée. C'est maintenant à la Cour suprême des États-Unis de trancher sur le sujet, une décision qui ne sera pas prise avant le 14 octobre. En Ukraine, l'ancien président du Parlement et député Andrei Paroubi, tué par balle ce matin dans une fusillade. On ignore encore les circonstances de cette attaque. Il a été abattu dans l'ouest du pays, à Lviv. Et tôt ce matin, de nouvelles attaques russes mortelles sont survenues à l'est du pays, dans la ville de Zaporijja. On compte au moins un mort et une vingtaine de blessés. Des frappes qui arrivent deux jours après l'attaque massive contre Kiev, la capitale ukrainienne, où 25 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées. De son côté, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz ont appelé hier à des sanctions supplémentaires contre la Russie, notamment si Vladimir Poutine n'accepte pas de rencontrer Volodymyr Zelensky. Vladimir Poutine, lui, se rendra en Chine dès ce soir, rencontrer Xi Jinping pour le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, appelé l'OCS, un sommet qui existe depuis 24 ans et qui se veut être une alternative à l'ordre international occidental, notamment face à Donald Trump. 20 chefs d'État au total sont invités, dont le géant indien qui a beaucoup à jouer après que les États-Unis ont décidé de taxer le pays à 50% sur certains produits. Le Premier ministre indien Narendra Modi souhaite renouer avec son voisin chinois pour diversifier les échanges, comme Bastin.
Narendra Modi participe à partir du 31 août au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette alliance, présentée comme un contrepoids à l'Occident, réunit notamment la Chine, la Russie et l'Inde. Le Premier ministre indien rencontrera Xi Jinping et Vladimir Poutine. Ce rendez-vous eurasiatique intervient après l'annonce de taxes massives sur les exportations indiennes. Washington dit punir Delhi pour ses achats de pétrole russe. L'Inde refuse de céder et met en scène son rapprochement avec la Chine, l'ennemi juré de Donald Trump. Arch Pant, analyste à l'Observer Research Foundation.
C'est un exercice délicat pour l'Inde, mais indispensable vu de l'évolution à Washington et la reconfiguration dans l'Indo-Pacifique. Narendra Modi se rend en Chine, en passant par le Japon, ce qui est un signal. L'Inde construit sa relation avec la Chine, selon ses termes, tout en se rapprochant d'autres partenaires régionaux, partageant ses valeurs.
Alors que les États-Unis sont son premier partenaire à l'export, l'Inde cherche à diversifier ses échanges, notamment avec la Chine. Malgré ce rapprochement, les deux géants asiatiques entretiennent toujours un conflit frontalier dans l'Himalaya.
Rentrée politique de tous bords ce week-end en France, avec les universités d'été de plusieurs partis, dont celle du PS, qui s'est dit volontaire hier pour prendre la relève de François Bayrou. Ce matin, le PS propose également ses contre-propositions pour le budget de la France. Bonjour Adrien Toffolet.
Bonjour.
Des mesures qui visent notamment les grandes fortunes.
Oui, rien à voir avec le budget proposé par le Premier ministre, rien à voir avec la politique économique macroniste, pas le ruissellement mais la redistribution, a expliqué tout à l'heure le patron des députés socialistes Boris Vallaud. Le mot d'ordre, la justice sociale, la ligne rouge, on ne demande pas aux plus modestes de réparer. Le PS l'avait déjà annoncé, les grandes fortunes seront mises à contribution pour des recettes nouvelles estimées à 26,9 milliards d'euros, avec notamment la mise en place de la taxe Zuckmann qui rapporterait à elle seule 15 milliards d'euros. Lutte contre la fraude fiscale et sociale ou encore refonte de la fiscalité sur les dividendes. Et puis, il y a les économies. On ne veut plus entendre que les socialistes ne proposent que des augmentations d'impôts, expliquait un cadre tout à l'heure. 14 milliards d'euros d'économies, réduction des aides aux entreprises en raison de leur impact économique limité ou encore réforme des niches fiscales comme le crédit impôt recherche. Un équilibre recette-économie qui doit permettre de réduire le déficit de 21,7 milliards d'euros d'après le plan présenté. Un plan qui doit permettre de reprendre la main quand l'histoire se fait tragique et menaçante, disait tout à l'heure Boris Vallaud, de présenter les socialistes comme une alternative crédible contre le chaos promis par François Bayrou.
Merci Adrien Toffolet, en direct des universités d'été du Parti Socialiste à Blois, avec Romain Lucquens pour les moyens techniques. Sur le budget, d'autres voix se font entendre, celle du patronat notamment. Le mouvement patronal Impact France s'est réuni cette semaine. Créé en 2009, l'organisation rassemble 30 000 entreprises engagées pour la transition écologique et sociale. Elle compte dans son réseau Le Bon Coin, l'Occitane en Provence, Doctolib ou encore Biocoop. Et ce mouvement souhaite que les entreprises contribuent davantage. On écoute le co-président du mouvement, Pascal Demurget, par ailleurs le directeur général des assurances, la Maif.
Il y a une nécessité de réduire le déficit public, tout le monde est d'accord là-dessus. En revanche, l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de l'effort, pèse sur les ménages, et en particulier sur les ménages les plus modestes. Que va-t-il se passer? S'il n'y a pas plus de justice sociale dans ce budget, il ne sera pas adopté. Et non seulement il ne sera pas adopté, mais on génère déjà une colère sociale extrêmement forte. Ça veut dire un blocage du pays, un pays qui n'aura pas de budget. Je ne vois pas en quoi l'économie et les entreprises peuvent en bénéficier. Je pense que le moment est venu où on doit s'interroger sur la contribution des entreprises à, j'allais presque dire, à l'effort de guerre économique, en tout cas de désendettement de la France. Alors, pas nécessairement sous la forme directe et un peu brutale d'une augmentation des charges qui pèsent sur les entreprises, mais il y a des choses intelligentes à faire. On a un taux d'impôt sur les sociétés qui a, donc sur les bénéfices des entreprises, qui a structurellement diminué dans le temps, il est passé à 25%. Très bien, et je ne demande pas de l'augmenter. En revanche, modulons-le. Il y a une partie des bénéfices des entreprises qui est réinvestie dans l'entreprise elle-même. Diminuons l'impôt sur les sociétés pour cette partie-là. Et puis, il y a une partie de ces bénéfices qui est redistribuée vers les actionnaires sous forme de dividendes. Augmentons le taux d'imposition sur cette partie-là. Ça veut dire qu'on favorisera l'investissement productif des entreprises sans augmenter le taux global de fiscalité et sans diminuer non plus les recettes fiscales.
Pascal Demurget, co-président du mouvement patronal Impact France et directeur général des assurances Lamaïf, au micro de Marie Viennot. Le gouvernement intervient, saisit les ministres de la Justice et de l'Intérieur ainsi que l'ARCOM au sujet du site internet Coco qui a été fermé par la justice il y a plus d'un an mais qui réapparaît aujourd'hui sous un nouveau nom, Bounty Chat, et qui est accessible à tous sans limite d'âge, un site pourtant accusé d'être un repère de criminels sexuels, également de pédocriminels. Il avait été révélé au grand jour lors de l'affaire Mazan. Dominique Pellicot avait recruté des hommes pour violer Gisèle Pellicot sur ce site. 5 prêtres mis en cause dans des témoignages de violences sexuelles dans le collège lycée catholique Saint-Stanislas à Nantes, dans les Pays de la Loire. C'est la direction de l'enseignement catholique qui l'a révélé hier à la presse. Des faits d'attouchement et de viol se sont produits entre 1958 et 1995 dans l'établissement. Des victimes ont témoigné, mais les prêtres sont tous décédés aujourd'hui. Direction Perpignan dans les Pyrénées-Orientales pour l'ouverture du festival Visa pour l'image, l'événement français du photojournalisme. Il a débuté tout juste ce matin sous les mots de Jean-François Leroy, le fondateur et directeur de Visa pour l'image. Nous le recevons dans le journal de France Culture ce midi. Il est notre invité. Bonjour Jean-François Leroy.
Bonjour.
Alors cette année, est-ce que nous avons un thème particulier qui émerge de ce festival ?
Non, honnêtement, on essaye toujours de suivre un peu l'actualité du monde à travers 26 expositions et une centaine de sujets en projection, puisque nous avons des projections également, qui nous permettent de faire un peu l'actualité du monde tel qu'il est ou tel qu'il a été.
Alors, on a les incendies à Los Angeles,
Les incendies à Los Angeles, on a les femmes en Afghanistan, on a la drogue en Syrie et en Irak. On a l'Ukraine, bien évidemment, la bombe de Gaza, des sujets un peu plus écologiques, j'allais dire, enfin, qui parlent d'environnement, comme Brent Sirton, qui travaille depuis plus de 10 ans sur le parc des Virunga au Congo. Et on a George Steinmetz, qui nous montre un travail sur l'alimentation. Il y a un travail qui s'appelle « Feed the Planet », « Nourrir la planète ». Et qui nous balade un peu dans la surpêche, l'écologie, l'élevage intensif, etc. Et qui nous permet d'avoir un regard sur le monde dans lequel nous vivons et nous mangeons.
Et Jean-François Leroy, vous avez aussi des expos de journalistes palestiniens, notamment donc dans la bande de Gaza. C'est aussi rendre un hommage à cette profession de photojournaliste, de reporter, car on le sait, depuis 2023, 200 photographes, caméramans, journalistes ont été tués dans les frappes de l'armée israélienne. Est-ce que vous avez accordé une place particulière à ces images ?
Écoutez, on pouvait difficilement, comme je vous disais, que nous couvrons l'actualité du monde. C'était impossible de ne pas parler de la bande de Gaza. Donc nous avons effectivement 2 expositions. Fatma Hassona, qui a été tuée par une frappe de l'armée israélienne. Et puis Saher Al-Ghora, qui est le lauréat du Visa d'or de la Croix-Rouge internationale. Et que malheureusement, nous n'arrivons pas à faire venir parce que il est coincé dans la bande de Gaza et on n'arrive pas à l'en sortir. Mais évidemment, nous rendons à travers eux un hommage à tous les journalistes, caméramans, preneurs de son, rédacteurs qui ont payé de leur vie ce qui se passe à Gaza et qui sont proches de nos cœurs et de nos pensées.
Et vous écrivez, ce sont notamment des sujets dont on détourne facilement le regard. Alors les visiteurs qui vont venir à cette exposition, qu'espérez-vous que les visiteurs retiennent du festival ?
Écoutez, je suis toujours surpris quand je me promène dans les expositions de voir des gens qui lisent les légendes de chaque photo, donc qui veulent comprendre, pas simplement regarder, jeter un œil, mais qui veulent comprendre. On a des textes de présentation dans chaque exposition, et je vois que le public est quand même très soucieux, preneur de ce genre d'informations pour s'informer du monde réel dans lequel nous vivons. Et ça me frappe toujours beaucoup de voir l'intérêt. On dit toujours que l'actualité est barbante, pessimiste, etc. Mais je constate que dans le public du festival, ils démontrent ça complètement et ils s'intéressent à ce qu'on leur montre, ce qu'on ne voit peut-être pas assez dans les médias traditionnels. Donc, Visa pour l'image, c'est un peu une piqûre de rappel pour montrer l'état du monde dans lequel on est.
Dernière question, Jean-François Leroy, si vous devez nous décrire là ce midi une image que vous avez en tête du festival, est-ce que vous pouvez nous décrire une photo ?
Oh, vous savez, c'est difficile parce qu'il y a plus de 1000 photos accrochées au mur, donc j'aurais du mal à en choisir une. Il faudrait que je fasse toute l'émission pour vous parler de mes 50 photos préférées, mais tout a son histoire, tout a sa raison d'être. Et je conseille à tous les visiteurs de tout regarder. Vous savez, je pense qu'au milieu de ces 26 expositions, si vous en choisissez une, et dans cette exposition, vous avez une image qui vous interpelle, qui vous émeut, qui vous surprend, j'aurais gagné mon pari.
Merci Jean-François Leroy d'avoir été avec nous sur France Culture ce midi à l'occasion de l'ouverture du festival de photojournalisme Visa pour l'image à Perpignan, dont vous êtes le directeur et le fondateur. C'est la fin de ce journal, il a été préparé avec Axel Dubois à la technique Paul Guigues.